Eh bien oui, c'est nous ça, l'émission On en jase sur Boulevard 101, ton émission d'actualité. Du midi, de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Audrey Pinchot qui est de retour, elle sera avec Denis et Véro à partir de 14h. Saint-Marceau le soir à 18h. Et vous le savez, notre programmation régulière. 6h à 10h, Marceau le matin avec Jeff Fortin et Max Larouche également. Et de 10h à midi, c'est Max qui prend l'antenne avec Catherine Bachand à compter de 10h. Nos grands rendez-vous, pit stop 7h55 le matin avec Denis Gravel. Open mic à 11h avec Audrey Pinchot. Et le caucus pour cette semaine encore avec Emmanuel Latraverse. 418-971-1021 pour nous joindre en studio. BLVD.fm, c'est la web radio, c'est les meilleurs moments qui s'y retrouvent. BLVD 101, c'est notre application gratuite disponible sur App Store et Google Play Store. Et également, abonnez-vous à notre page YouTube, BLVD 101. Puis avec vos haut-parleurs intelligents, vous dites tout simplement « Écoutez BLVD 101 » et on apparaît dans vos oreilles. Pascal CV, ça va bien cette belle journée du mois d'avril?
Ça va très bien, oui, super beau mardi, c'est le fun. Les cafés-terrasses matinaux sont recommencés.
Ah, c'est super plaisant la température. Je vais aller faire une petite marche, une quinzaine de minutes pour justement m'énergiser et aller voir ce beau soleil. C'est une belle température. Sortez dehors, les amis. Puis vous avez tout simplement avec votre téléphone à nous écouter via l'application. Évidemment, on va voir Emmanuel Latraverse dans le caucus. Également, on va parler de deux sujets qui, à mon avis, méritent d'être traités. Le premier, les boissons énergisantes. L'interdiction pour les jeunes de moins de 16 ans, ça fait du chemin. La LHJMQ s'est portée en faveur de cette demande. Également, le réseau de sport étudiant du Québec. On va justement parler là, avec un responsable du sport étudiant au Québec tout à l'heure, Gustave Roel, de cette demande d'interdire les boissons énergisantes pour les moins de 16 ans. Et coup de théâtre dans le cadre de l'exportation du pétrole alors que les Émirats arabes unis ont décidé de quitter l'OPEC, c'est-à-dire l'Union des producteurs et des exportateurs pétroliers. Donc, ça va être une discussion qu'on aura avec Yvan Klisch, spécialiste en énergie au Cerium, si t'as pas manqué, dans la première heure. Sinon, Pascal CV, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
C'est un dossier qu'on va suivre encore longtemps également, celui sur l'enquête de la mort de Maëline Luger.
Oh, que oui!
Ça s'ouvrait hier au Palais de justice de Québec et ça concerne ce décès tragique-là de cette jeune adolescente de 13 ans qui avait été retrouvée sans vie dans un boisé à proximité de son école secondaire en novembre 2024. Dans les dernières heures, la nouvelle qui s'est amassée avec un peu plus d'informations, ça a même secoué du côté du Palais de justice de Québec parce que c'est comme si on en apprenait plus maintenant, des années plus tard, comme quoi cette journée-là, elle avait envoyé un message texte à une de ses amies où elle exprimait son désir d'en finir pour de vrai. En gros, ce qu'elle disait, c'est que ce n'était pas une journée comme les autres, où elle pensait s'enlever la vie. Elle pensait vraiment que ça allait être cette journée-là qu'elle allait passer à l'action. C'est un texto carrément là, tragique, difficile à lire. Et c'est ça qui a surpris un peu tout le monde là, au niveau du palais de justice. Pour le coroner, il s'en est permis une petite envolée lyrique là, envers les policiers en disant « Pourquoi est-ce qu'on apprend ça maintenant? Pourquoi est-ce que c'était pas dans les rapports de police? » Pour la police de Lévis, ben on dit si on avait eu l'information, ce serait dans nos rapports. Mais là, on apprend également qu'il y aurait probablement deux policières à école qui auraient eu connaissance de ces textos-là le lendemain de la mort de la jeune fille. Donc, il y a plein de choses encore à éclaircir dans le dossier. L'aspect psychiatrique avait été carrément laissé de côté dans le premier rapport qui avait été réalisé par la coroner Sophie Régnière et qui est maintenant devant la cour avec le coroner Luc Malouin. Les audiences vont se poursuivre toute la semaine, Jeff. Le Parti libéral du Québec présente aujourd'hui une promesse électorale importante en matière de logement. C'est la presse qui rapporte que le chef Charles Milliard va proposer un remboursement aux acheteurs de construction neuve, 36 % de la taxe de vente du Québec, jusqu'à concurrence de 10 000 $. On en parle un peu plus tard. Pour le gouvernement du Québec, on a choisi la diplomate Louise Blais pour représenter la province dans les négociations accord Canada-États-Unis-Mexique. Ça a été fait ce matin, cette annonce-là, dans un communiqué conjoint signé par Christine Fréchette et Bernard Drainville de la CAQ. Et je termine avec un petit clin d'œil là, sur les entraves à la circulation qui sont entrées en vigueur hier soir. C'est sur le boulevard Laurier en raison des travaux liés au projet de tramway jusqu'à la fin du mois de juin. Direction ouest complètement fermée entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie.
Oui, soyez patients sur nos routes ici à Québec avec les travaux du tramway. Il y aura de la congestion syntonisée. Le BLVD 101 pour être bien informé sur ce qui se passe dans votre ville.
Le caucus. Ce qui se passe autour de nous, ce qui influence nos vies, les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
En direct d'Ottawa, parce qu'il y a une mise à jour économique aujourd'hui là-bas du côté du gouvernement canadien. On va rejoindre Emmanuel Latraverse. Emmanuel, comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Cool. Emmanuel, à quoi tu t'attends justement de cette mise à jour économique? On sait déjà qu'il n'y aura, qu'on va annoncer un déficit moins grand que prévu. T'attends-tu un réinvestissement ou on met tout ça sur la dette?
Bien, un déficit, en vérité, c'est qu'on est moins dans le trou. Hein. Fait qu'il y a moins, il y a rien à réinvestir là-dedans. Moi, je te dirais, je vais regarder ça sous deux angles. Le premier, c'est, bon, quelle est la taille du déficit, là, parce qu'on nous dit qu'il va être moins grand que prévu, les rentrées d'argent ont été plus importantes. Aussi, il y a eu des révisions au calcul statistique des revenus, de la croissance économique, etc. Donc ça, ça permet de revoir la projection. Mais ça, c'est tout. C'est technique, là, tu sais. Est-ce qu'il y a une part du déficit moins élevée que prévu qui est due à la gestion du gouvernement? Mm-hmm. Qui est dû aux efforts du gouvernement. Est-ce que le gouvernement est capable de faire mieux en termes de réduction de ses dépenses que ce qu'il avait prévu lors de son budget de l'automne dernier? Moi, je pense que c'est là que toute la discussion autour de la taille du déficit et de la réduction du déficit devient plus importante. Puis je pense que politiquement, c'est important pour Mark Carney parce que c'est quand même, tu sais, c'est le banquier prodige qui a été élu pour sauver l'économie canadienne et qui a quand même déposé un premier budget où il a dépensé encore plus que M. Trudeau. Donc, est-ce que c'est un banquier dépensier comme on le croyait ou est-ce que maintenant qu'il est vraiment aux commandes de l'État, on est en train de voir sa marque? Est-ce que surtout maintenant qu'il est majoritaire, son gouvernement a les coups des franges pour prendre des décisions difficiles. C'est difficile d'être courageux politiquement quand tu es obligé d'acheter l'appui d'un autre parti politique. À partir du moment où majoritaire, tu es des franges, moi, je pense que c'est ça qu'il va falloir surveiller aussi. Puis l'autre chose, c'est est-ce que c'est un budget qui va alléger aussi les coûts pour les contribuables? Depuis le début de l'année, le gouvernement a déjà bonifié le crédit TPS pour les familles à plus faible revenu. La semaine dernière, il a annoncé ce congé de taxes d'assises jusqu'au mois de septembre prochain. Est-ce que c'est la fin de... On remet de l'argent dans les poches, dans le portefeuille des Canadiens ou est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vont être mises en œuvre à cet effet-là? Je pense que c'est les deux grands repères qu'on va surveiller.
Non, en effet, ça va être très intéressant à surveiller comment on va jouer le tout du côté de Mark Carney. T'es-tu comme moi, puis t'as pas acheté le fameux « on n'aura plus de déficit opérationnel, mais on va avoir un déficit d'investissement », cette fameuse nouvelle façon de calculer de Mark Carney?
Ben, moi, je suis pas contre cette idée-là, tu sais. La réalité, c'est que à un moment donné, il faut dépenser pour être capable d'investir toi-même. Je veux dire, les gens achètent hier, les gens renouvellent, par exemple, leur marge de crédit pour faire des rénovations sur leur maison. Il y a une partie des dépenses et des déficits qui peuvent être vus comme un investissement plutôt que comme des dépenses courantes. L'enjeu, c'est comment on sépare les deux. Tu sais, est-ce que du financement pour la formation de la main-d'œuvre, ça rentre vraiment dans la catégorie investissement ou est-ce que ça, on n'est pas dans des programmes normaux de dépenses courantes que font le gouvernement? Puis je pense que c'est d'abord dans l'enjeu de où ce gouvernement-là a tracé la ligne entre bon déficit et moins bon déficit, là, si on veut, là, qu'il y a un débat à avoir. Puis s'ils vont être capables d'ajuster, je pense, ce message-là dans cette mise à jour économique, parce qu'on s'entend que c'était très charmant comme idée, c'était très séduisant comme idée, mais que lors du dépôt du budget l'automne dernier, ça n'a pas vraiment passé comme argument. T'sais.
Christine Fréchette était à Washington hier. Elle a fait des rencontres très importantes, notamment avec Jamison Greer, qui est le responsable, justement, en termes de négociations économiques. Elle a également nommé Louise Blais comme nouvelle émissaire pour défendre les intérêts du Québec dans cette négociation-là. Je te laisse entendre tour à tour Christine Fréchette et Louise Blais sur comment ça se passe présentement, la relation entre le Québec, les États-Unis, mais aussi Québec-Canada-États-Unis. On commence avec Mme Fréchette.
Je pense que, comme je vous disais, les coups d'éclat, je pense que M. Ford en a eu un certain nombre. C'est son style, c'est son approche. Et puis, moi, je suis plus dans une approche de concertation, de collaboration, de dialogue ouvert et néanmoins de respect de des juridictions du Québec puis de ce qui est non négociable pour le Québec. Et j'entends là la langue française et également la gestion d'offres.
Mme Blais, maintenant.
Oui, ben en fait, le Québec a déjà été très, très bon joueur. Hein? On n'a pas acheté de bande-annonce, on n'a pas pris position avec les médias américains. On travaille en complémentarité avec le fédéral pour justement faire valoir ces intérêts-là. On travaille à travers notre réseau de délégués général du Québec aux États-Unis qui sont hyper connectés pour justement, c'est pas un accident là, que la première ministre a pu rencontrer Jamison Greer hier. C'est vraiment ce travail-là de terrain qui est primordial.
Bon, évidemment, Emmanuel, tout le monde craignait un coup à la Doug Ford, c'est-à-dire l'Ontario qui se présente devant les États-Unis, ça déstabilise tout le monde. C'est pas arrivé hier. Mais aujourd'hui, à la une de la presse, entrevue exclusive avec Mark Carney, et Mark Carney qui met en garde contre la pensée magique et qui se déclare nationaliste canadien. C'est-tu venu le chicoter un peu pareil que Mme Fréchette se rend à Washington?
Ah non, je pense pas du tout. Je pense que ça s'inscrit dans sa logique de nationalisme canadien, elbows up, on est fiers de notre pays, vive la feuille d'érable. Vraiment, je pense qu'au contraire, ce qui est intéressant dans l'approche de Mme Fréchette, si on veut la comparer à celle de M. Ford, c'est que M. Ford est très dans « moi, je vais faire le travail, moi, je vais plaider la cause des États-Unis », alors que Mme Fréchette, oui, elle a rencontré Mark Carney, mais elle ne fait pas cavalier seul, je te dirais, dans ses efforts auprès de l'administration américaine. Avant de se rendre à Washington, elle a rencontré le ministre responsable des relations canado-américaines, Dominique Leblanc. Elle s'est assise avec la négociatrice en chef du gouvernement, Janice Chargeant, pour avoir un bref, là, comment ça se sent, quels sont les enjeux. Donc, on voit davantage, je pense, Mme Fréchette qui essaie de mettre l'épaule à la roue plutôt que donner ses batailles. Et c'est un peu tout le défi d'une nation dans le contexte d'un pays filial comme le Canada. C'est comment on fait en sorte que, pour reprendre mon analogie de football de hier, que le premier ministre du Canada et que le gouvernement fédéral soient le corps arrière, mais qu'en même temps que les provinces ou une première ministre comme Mme Fréchette joue le rôle de wide receiver ou tu sais, trouve la position que tu veux au football. Ouais, ouais. Et donc...
Oh, Emmanuel, on commence vraiment à te perdre, malheureusement, avec le réseau. On essaiera peut-être là, de te rejoindre par téléphone pour essayer de terminer, justement, le caucus. Donc, malheureusement, là, on a perdu la connexion. Emmanuel, qui est en direct, là, justement, d'Ottawa pour la mise à jour économique. Donc, on va tenter de la joindre par téléphone. Sinon, en attendant, bien, juste vous mentionner, pour les gens qui ont des sacs mauves, c'est sorti par la Ville de Québec du 1er au 10 mai. N'utilisez pas vos sacs mauves pour le compostage parce qu'en raison des travaux d'entretien qui auront lieu au centre de biométhanisation et de matière organique, il n'y aura pas de traitement. Donc, on fait des travaux là-bas pour modifier et pour justement des travaux d'entretien pour cette usine de biométhanisation. Alors, du 1er au 10 mai, ne pas utiliser vos sacs mauves résidents de la Ville de Québec, mais bien, autrement dit, vous jetterez là, vos déchets alimentaires, vos déchets organiques directement là, dans vos sacs blancs ou vos sacs verts. Ça va être de la façon qu'on va procéder. La communication est revenue avec Emmanuel. Emmanuel,
oui.
Tu es bien là?
Oui, je suis là. Alors, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est que c'est là que le rôle de quelqu'un comme Mme Blais est très intéressant, parce que Mme Blais, elle a fait partie de la diplomatie canadienne, elle a une longue feuille de route, elle a été consul du Canada à Atlanta, elle est hyper connectée. T'sais, avant d'être nommée par Mme Fréchette, elle était justement une espèce de conseillère spéciale auprès du Conseil canadien des affaires, qui est le plus gros lobby de grandes entreprises au Canada. Elle a des entrées partout aux États-Unis. Donc, elle est vraiment quelqu'un qui peut aider le Québec à négocier et à naviguer les écueils de cette négociation-là. Et, tu sais, ce qui est de plus difficile dans ces négociations-là, c'est comme si le Canada va réussir à faire changer d'idée l'administration Trump sur les tarifs, tu sais. Alors, il faut négocier, il faut trouver, tu sais, ce qu'on aime appeler des voies de passage, là. Ça, ça prend quelqu'un qui a une connaissance très, très fine des objectifs, des buts, de ce que maîtrisent, de ce que veulent les États-Unis pour aider le Canada à formuler des compromis qui sont acceptables de part et d'autre. Et donc, ça permet finalement au gouvernement du Québec d'avoir quelqu'un qui est à temps plein sur la diplomatie commerciale spécifique liée à ces négociations-là. Donc, je pense que c'est une nomination qui est très bien accueillie, justement parce que Mme Blais a des entrées aussi importantes à Ottawa, auprès du monde des affaires canadien que du côté des États-Unis.
Je te fais entendre également Christine Fréchette qui parlait de possiblement retirer des sanctions aux États-Unis si eux faisaient un bout de leur côté.
J'ai fait valoir que certaines des mesures que l'on a prises, c'était en réponse à l'imposition de tarifs. Donc, j'ai indiqué que s'il y avait une révision des tarifs et que ça changeait la donne de manière significative, eh bien que moi, j'étais prête à reconsidérer les mesures que l'on a mises en application en réponse aux tarifs. Donc, le message a été capté.
On a beaucoup entendu parler dans les derniers jours de l'alcool sur les tablettes de la SAC, donc l'alcool américain, on s'entend, qui a été retiré depuis le début de la guerre tarifaire. Donc, est-ce que tu vois là un levier de négociation, c'est-à-dire, hey, pour l'aluminium, hey, pour le bois d'œuvre, est-ce qu'on trouve un terrain d'entente, une espèce de voie de passage, puis nous, on va remettre de l'alcool sur nos tablettes?
Ben, c'est assez drôle parce que personne pensait au début, il y a un an, que quand on a retiré l'alcool des États-Unis, ça finirait par être un levier efficace.
Tu sais. En effet, moi je disais c'est juste une petite contre-attaque.
C'est ça. T'sais, c'était vu comme une contre-attaque qui fait du bien, là, tu sais, collectivement. Ah, on va plus boire votre bourbon, tant pis pour vous.
C'est ça.
Mais finalement, la réalité, c'est que ça a un impact majeur dans les États, tout particulièrement là, les alcools comme le bourbon et tout ça. Et donc, c'est sûr, et ça a pris un peu le rôle qu'à une époque étaient les contre-tarifs. Donc, c'est clair que le Canada entend et est ravi de voir que ça irrite les États-Unis au plus haut point parce que c'est une façon de dire donnez-nous les allègements qu'on c'est trouver un compromis qui est acceptable et nous, on va les enlever, ces mesures de rétorsion-là. Mais en même temps, ce qui est clair dans le discours de Mme Fréchette, c'est qu'il n'est pas question pour de ramener l'alcool américain sur nos tablettes tant qu'on n'aura pas gagné quelque chose. La réalité, c'est que le gouvernement Carney a fait cette erreur-là. Je pense que c'est facile a posteriori de dire que c'est une erreur, mais à l'époque où on croyait être sur le point d'avoir une entente avec les États-Unis, on avait justement, en signe de bonne foi, retiré les mesures, les contre-tarifs, on avait retiré la taxe sur le numérique.
Ouais.
Et finalement, tout a échoué, mais le gouvernement ne se fera pas prendre une deuxième fois à faire des accommodements pour satisfaire les États-Unis sans avoir obtenu quoi que ce soit en retour.
En effet, c'est clair. Emmanuel Latraverse, pour terminer ce caucus qu'on a du lundi au jeudi à l'émission On jase de midi à 12h30, faut que je te le dise, t'es juste une trad wife, toi.
Oui, ça a l'air que je suis juste une trad wife.
On explique le contexte. Ouais. Tu t'es positionné comme le PQ pour une hausse de natalité au Québec. Je dois t'avouer que je suis pour ça, moi aussi, qu'on hausse la natalité. Bon, si le coût de la vie n'était pas aussi élevé, je pense que les jeunes familles pourraient faire plus d'enfants. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, explique-moi ça. Là, pourquoi tu te fais traiter de trad wife si tu dis, ce serait juste cool qu'on ait plus d'enfants au Québec avec le vieillissement de la population?
Mais c'est drôle parce que moi, c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps. Puis il y a eu plein de statistiques qui ont été publiées au mois de février dernier sur la natalité. Puis donc, j'ai écrit justement une chronique dans le journal qui disait que c'était complètement débile qu'il n'y ait aucun parti politique qui était prêt à parler du problème de la natalité au Québec, puis que ça illustrait à quel point c'est un tabou, parce que tout le monde avait peur de se faire traiter de Maurice Duplessis, de la grande grand-mère, bon, ouais, puis des curés. Et le Parti québécois a commencé petit à petit à discuter de ça. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon vient de recruter une infirmière clinicienne qui a fait un doctorat sur la question. Bernard Drainville aussi en a parlé dans sa course à la direction. Et donc, en fin de semaine, à la radio de Radio-Canada, il y a eu comme une chronique sur la natalité. Et là, tout d'un coup, on a eu droit aux éructions d'un philosophe du cégep du vieux Montréal qui nous expliquait qu'il fallait que le Parti québécois clarifie ses intentions parce que, dans le fond, veut pas, de parler de natalité tenait à nous ramener à une instrumentalisation du corps de la femme et à une expropriation de son corps au profit de la nation.
Okay.
Et que donc, et ça revenait à dire, et lui-même l'expliquait que c'était une perspective féministe marxiste, que ça revenait à dire que dès qu'on ne pouvait pas parler de natalité sans mettre à risque finalement tous les gains que les femmes ont faits. Mais parce qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route. C'était une chose que les féministes marxistes et qu'à une époque, on s'indigne du fait que la natalité était une expropriation du corps de la femme et servait à condamner les femmes au foyer. Mais on oserait penser qu'en 2026, on est capable de parler de ça d'une manière différente. On s'entend. Ben, l'idée, c'est pas de forcer personne à avoir des enfants, là.
Il y a personne. Il y a personne.
Moi, je n'ai qu'un enfant.
Ben, c'est ça. Puis il y a personne en 2000. Ben, non, il y a personne en 2026 qui est le clergé puis qui va dire, ouais, fait longtemps que vous avez pas un enfant. Vous seriez dû pour votre septième, hein, ma petite Madame Latraverse. Il y a personne qui va faire ça, là.
Je dis pas qu'il y a personne qui le fait, mais je dis que c'est pas ainsi que le débat est mené.
Exactement.
C'est intéressant là-dedans. Puis là où je pense qu'il y a une autre couche, c'est que moi, tu sais, je suis pas très réseaux sociaux, puis tu sais, je donne pas là, dans les combats mm-hmm. idéologiques là, dans la sphère.
Moi aussi, ça m'aide réalité, beaucoup mentalement.
La réalité, c'est qu'il y a tout un pan de la gauche qui est vraiment lancé dans une opération de démonisation de Paul Saint-Pierre Plamondon, comme s'il était l'antéchrist, raciste, crypto-fasciste. Tu sais, je veux dire, oui, tu peux être d'accord ou pas avec Paul Saint-Pierre Plamondon, là, OK? Tu peux être d'accord ou pas avec ses politiques, avec sa façon de faire la politique. Mais excusez-moi, là, tu sais, on peut-tu avoir le débat sur un niveau intelligent? Puis je trouve que cette sortie-là sur la natalité a illustré à quel point, à force de vouloir démoniser un adversaire politique à qui on reproche un virage identitaire, comme plusieurs souverainistes de gauche reprochent au Parti québécois d'avoir pris, ce qui est correct. Ils ont le droit d'être pas d'accord, mais attaquer et critiquer Paul Saint-Pierre Plamondon sur des bases plus sérieuses, plus factuelles que de se livrer à des excès de théories féministes, marxistes, dont personne n'a, c'est pour essayer de le mettre en liste. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu te rappelleras qu'il y a une époque, là, ça aussi, ça a circulé sur les médias sociaux, supposément qu'il avait rencontré Éric Zemmour à Paris.
Oui, oui, oui.
Ce qui n'était pas vrai. Puis le PQ a décidé de pas répondre à ces gens-là, tu sais. Et donc là, la manchette, c'était Paul Saint-Pierre Plamondon doit s'expliquer sur sa possible rencontre avec Éric Zemmour. Puis là, c'était la même chose en fin de semaine, c'était Paul Saint-Pierre Plamondon doit s'expliquer sur s'il veut vraiment une politique de natalité qui exproprie le corps des femmes. Je veux dire, c'est...
Il n'y a pas à s'expliquer, il n'y a rien là-dessus.
Mais tu peux pas gagner contre ça. Puis moi, je suis curieuse de voir, peut-être que ça va tenir la route, peut-être que ça va être intéressant, peut-être que ça sera pas intéressant ce qu'ils proposent sur la natalité. Mais quand c'est un pays qui est en train, qui fait 1,34 bébés par habitant, par femme, puis que tu es en train d'atteindre le seuil d'une natalité qui est dangereuse pour l'économie, parce que c'est le cas où on frôle ces niveaux-là, je pense que c'est totalement légitime d'avoir des réflexions là-dessus. Il y a plein de pays qui en ont, en Scandinavie, en France, au Japon, un peu partout. Mais là, on n'aurait pas le droit de parler de ça, de craindre d'exproprier le corps de la femme. On est en 2026, les amis.
Oui, exactement. Je termine là-dessus. Est-ce qu'il y a un danger pour Québec solidaire de tendre vers justement cet extrême-là? Tu sais, je vois un Alexandre Boulris hier dans son discours, on l'a eu en entrevue ce matin à Boulevard 102.1. Tu sais, je vois un progressiste, mais beaucoup plus centriste, beaucoup plus, tu sais, je vais le dire comme ça, beaucoup plus connecté sur ce qui est le Québec. Est-ce qu'il y a un danger quand même que pour aller chercher des votes, une Ruba Gazal ou un Sol Zanetti veulent aller tenter de charmer cet extrême-là?
Justement, je pense pas, et je pense que c'est le problème de Québec solidaire, c'est cette fracture entre sa branche militante, la plus gauchiste militante, et son caucus. Mais le problème, c'est que les excès de cette... J'aime pas les épithètes, là, mais tu sais, de cette extrême gauche progressiste, ouais, ou appelle-la comme tu veux, là, tu sais, qui voit des finit par déteindre sur la crédibilité de l'option de Québec solidaire. Et je pense que cet effet-là par ricochet contribue à expliquer les difficultés auxquelles Québec solidaire en ce moment est confronté. C'est qu'on juge Québec solidaire sur la caricature de ces militants les plus extrêmes plutôt que sur le fond des positions que QS dépose.
En effet, t'as entièrement raison. Puis c'est sûr qu'ils se sont pas aidés lorsque Gabriel Nadeau-Dubois a quitté là, en raison justement de pression là, qu'il subissait.
Exactement. Ben, c'est sûr, puis je pense que c'est de là que vient l'idée, entre autres, de recruter quelqu'un de connu comme étant un progressiste, gauchiste, mais modéré, comme Alexandre Boulris, pour essayer de redorer l'image et de déradicaliser l'image du parti dans l'opinion publique.
Emmanuel Latraverse, c'est toujours un bonheur de te parler. Demain, exceptionnellement, tu es absente, donc on se reparle jeudi avec un immense bonheur.
Parfait, merci, au revoir.
Salut, bonne mission, bon état économique du Canada ce soir. Salut, mise à jour économique, cherchais le mot. C'était Emmanuel Latraverse, elle sera absente demain, de retour avec nous jeudi dans le caucus.
Avant qu'on entre en onde, on apprenait malheureusement, Jeff, le décès de l'ancien gardien de la LNH qui était aussi analyste à la télévision, John Garrett. Oh. Et ça, c'est tombé, donc j'attendais la fin du caucus pour t'en parler. Mais il a porté les couleurs des Nordiques de Québec aussi pendant un an.
Oui, je me souviens de l'avoir vu au Colisée à l'époque. John Garrett, un gardien de but qui a connu une carrière correcte dans la Ligue nationale, qui était venu porter main forte là, au Nordique, là, qui était plus jeune à ce moment-là.
74 ans pour l'homme originaire de Trenton, en Ontario. Ça n'a pas été dévoilé plus que ça, là, le pourquoi, le comment, mais c'est les Canucks de Vancouver qui en ont fait l'annonce. Donc, on a évoqué un décès soudain, malheureusement, dans un communiqué de presse.
Alors, nos sympathies à la famille de John Garrett. Deux sujets qui, je suis convaincu, vont vous intéresser au retour de la pause. Le premier, ça va être avec Yvan Klisch, spécialiste en énergie au Cirium. Imaginez-vous donc que les Émirats arabes unis ont décidé de se retirer de l'OPEC, donc de l'Union des producteurs et exportateurs du pétrole. Donc, qu'est-ce que ça peut faire comme conséquence sur le prix du baril de pétrole et sur des producteurs comme le Canada? On va en parler avec M. Klisch. Et Gustave Roel, chef de la direction au niveau du réseau du sport étudiant du Québec, sera avec nous pour parler de cette demande d'interdire les boissons énergisantes au moins de 16 ans. Puis avant tout ça, on va faire un gros bloc de nouvelles avec Pascal CV. C'est ce qui vous attend au retour de la pause à Boulevard 102 à l'émission Dans Jazz.